qui allez écouter ce podcast, je pense, dans la matinée de ce jeudi d'ascension, profitez. Le Real Madrid est en finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, pour la 18e fois, ira aller chercher une nouvelle couronne en route vers la 15e. Rendez-vous à Wembley le 1er juin. Au bout d'un match extraordinaire, j'allais dire pas forcément dans le contenu, le jeu, mais surtout dans le scénario, comme le Real Madrid a toujours su le faire en Coupe d'Europe. Le Real Madrid, j'ai pas de mots, je sais pas par quoi commencer, mais voilà, il faut que je présente les gars pour ce dispositif européen que vous connaissez. L'occasion pour moi de saluer Hichem pour Real French Madrid et Damas, bien évidemment, que vous connaissez aussi pour lors de nos soirées européennes. Damas, en plus, qui est en finale de la Ligue des Champions grâce à son club de cœur, Dortmund. Messieurs, bonsoir. Il est 23h51 quand on commence.
Bonsoir à tous, messieurs. Bamonos, j'ai envie de dire.
Bonsoir à tous, bonsoir et à toutes, bien sûr. Hein.
Exactement.
C'est pour tous.
Ah oui, non, mais j'allais dire... On a vécu un match où il a fallu quand même un petit peu de temps pour avoir du recul sur ce qu'on vient de vivre. Hein. Et j'allais dire, victoire 2-1 du Real Madrid au bout des 90 minutes. J'ai envie de parler du match. On va peut-être en reparler donc, tout au long donc, là, de ce podcast. Mais voilà, je veux parler à Hichem qui représente un certain nombre de ses abonnés qui sont des centaines de milliers sur Twitter. Hichem, c'est quoi le sentiment là, ce soir après ce match?
C'est inexplicable, Gilles. Comme ce club, en fait, c'est irrationnel ce qui s'est passé ce soir. Une joie tellement profonde parce que c'était pas gagné. Et quand on gagne, en fait, dans les derniers instants du jeu, alors que tout porte à croire que la fin est inéluctable, et ben, le Real Madrid arrive à surgir et l'âme du club ressort pour montrer à l'adversaire et au monde, en fait, qui est vraiment ce club. Donc, vraiment une joie extrême, même si au cours du match, voilà, j'ai été assez pessimiste, parce que pour moi, oui, le Bayern était prenable, oui, on a raté beaucoup d'occasions, mais ils ont su mettre en place un plan qui a déstabilisé, d'une certaine manière, ce Real Madrid. Donc jusqu'à l'action que Kane rate après le premier but du Bayern, j'étais assez pessimiste. Et ensuite, après cette action, c'est là où je me suis dit, ok, il y a peut-être un monde où on arrivera à faire quelque chose ce soir, et ça s'est passé, donc c'est incroyable, indescriptible.
Oui, Damas.
Merci Gilles, c'est tout simplement un honneur aujourd'hui d'être supporter du Real Madrid. Au-delà même du scénario, c'est encore une fois le poids de l'histoire où on arrive à la 18e finale de Ligue des Champions pour l'institution qu'est le Real Madrid. Et surtout, c'est toujours symbolique parce que c'est l'un des plus gros affrontements européens face au Bayern Munich, quel que soit son niveau. Ça reste le nom Bayern de Munich qui, encore une fois, fléchit à Santiago Bernabéu.
Exactement.
En terre espagnole, dans une ambiance de folie parce que les supporters ont clairement répondu présent. On a vu encore une fois des gens qui étaient clairement disposés à l'événement. Et forcément, on est obligé de revenir sur le scénario parce que c'est quelque chose que nous avons certes déjà vu et qui, encore une fois, nous impressionne émotionnellement. Le Real, quand la bête n'est pas abattue, elle peut être blessée, vous lui cassez les jambes, elle arrivera au bout si vous ne la tuez pas. Et Hichem a bien entendu mentionné cette fameuse action de Kane qui est quelque part représentative de la saison du Bayern Munich. On aura le temps de revenir là-dessus, Gilles.
Oui, clairement, parce que c'est vrai qu'on était dans un scénario de rencontre, de demi-finale de Ligue des Champions, où on a pu voir justement donc, une équipe du Real qui, on va dire, avait le contrôle de la partie en termes de possession de balle, contrairement au match aller, Et en fait, on était vraiment dans un tempo où en fait, on se disait que ce Real, je sais pas, Hicham, si tu te souviens du match du derby contre du derby, oui, qu'il y a eu au Bernabéu au mois de février,
qu'on perd,
qu'on fait match nul. Là, je parle celui-là à domicile.
D'accord, ok.
Un but partout avec le but dans les arrêts de jeu de Marcos Llorente.
Ah oui, okay.
Voilà, donc là, ce match-là où le Real Madrid domine de fond en comble la rencontre, et on va dire que les occasions qui devaient se concrétiser ne se concrétisent pas. Et à un moment donné, à force de jouer, mais tu te dis, tu vas te faire piéger. Et c'est exact. Vrai que là, par exemple, sur la première mi-temps, on va aller sur la deuxième mi-temps tout à l'heure, on voit que le Real, quand même, donc a des situations, mais ça n'empêche pas le Bayern de pouvoir faire quelques petites combinaisons et surtout de créer du danger dans la surface de réparation madrilène, parce qu'il y a eu des occasions du Bayern, Hichem.
Ah bah, c'est ça, et c'est ce qui est intéressant dans cette équipe du Bayern. Donc j'aimerais rappeler un peu mon analyse que j'avais faite vis-à-vis de cette équipe, qui est la suivante. En fait, le Bayern Munich s'adapte à l'adversaire auquel il fait face. C'est une équipe qui a et sait se comporter différemment selon l'adversaire qui est en face de lui. Un peu à l'image du Real Madrid, le Bayern sait garder la balle, mais le Bayern sait laisser la balle pour contre-attaquer également. Et le plan de jeu du Bayern a été rondement mené déjà pour le match aller. Moi, je pense que c'était un bon résultat quand même de sortir de l'Allianz Arena avec un 2-2, un match nul. Mais on a vu que le plan du Bayern nous avait embêtés. Ils ont réitéré sur ce match retour, puisque le Real avait majoritairement la possession de la balle. Et le Bayern a laissé faire ce Real Madrid tout en cherchant en fait à le punir sur les contre-attaques qui devait mener. Voilà, très peu d'occasions, mais derrière des occasions qui font mal. Et derrière, on a été averti une ou deux fois, notamment une reprise de volée de Harry Kane et une parade incroyable de Lounine qui vient sauver le Real.
Elle est cadrée, celle-ci
Elle est cadrée initialement. Alors, peut-être qu'elle n'est pas forcément cadrée. Voilà, sur le tir, puis ensuite Nacho, en la déviant, la met dans le cadre, puis Lounine la touche pour qu'elle puisse sortir. Il faudrait revoir l'action, mais c'est ce que j'ai vu personnellement. Après, voilà, le Bayern, quoi qu'il en soit, a su, comme tu l'as dit, combiner sur des petites actions pour essayer de trouver la faille contre les Madrilènes. Ça n'a pas réussi jusqu'à ce but en fait d'Alphonso Davies qui nous pendait au nez. Parce que quand tu ne marques pas dans une demi-finale de Ligue des Champions des occasions franches, comme on a pu en voir avec celle de Vinicius qui tape le poteau, puis la reprise de Rodrigo qui, désolé Rodrigo, je vais tomber sur lui ce soir, mais tu dois la mettre celle-ci. Tu ne dois pas tirer sur Neuer. Elle est difficile, peut-être, on peut considérer ça, mais à ce niveau-là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et derrière, on aurait pu le payer cash si la fin du match de Joselu n'a pas été celle qu'on
connaît. Oui, effectivement. Ben ça, c'est vrai que là, sur cette première période, Damas, avec un œil un petit peu plus extérieur, quand on voit le déroulement de la première période, on le voit gros comme une maison. Le Real Madrid, qui est censé, je parle sur la dynamique de la saison, être supérieur au Bayern Munich, qui, on va dire, domine la rencontre, même si, on va dire, en termes de possession, et justement, donc, permet donc de faire 0-0 dans ces circonstances-là, avec une animation défensive du Bayern, qui, bon, ouais, on peut dire qu'il y a quand même des bons éléments, même si, bon, dans l'ensemble,
je suis pas convaincu.
On sent pas que voilà que ce soit un grand Bayern. On se dit qu'on est en train de se voilà, on est en train de rentrer dans un piège dans lequel justement donc on a peur que ça se referme sur nous.
Mais moi je pense même que le Real tombe lui-même dans le piège que le Bayern n'a pas forcément mis en place par lui.
D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait que en gros le Bayern n'avait pas de plan.
Le Bayern avait peut-être un plan, en effet, de ne pas encaisser. À la rigueur, je peux l'accorder, mais je ne pense pas que le Bayern avait cette, même le niveau nécessaire à pouvoir bloquer ce Real Madrid qui, selon mon avis, s'est endormi lui-même. Et quand je parle d'endormi lui-même, déjà à l'échelle individuelle, il y a des joueurs qui nous ont déçus ce soir. Aurélien Tchouaméni.
Ah oui, bien sûr.
Federico Valverde. Hichem a bien entendu mentionné Rodrigo, c'est vrai. Mais dans un ensemble collectif, on n'a pas semblé voir un Real vouloir imposer sa décision. Et ça, ça peut en effet être embêtant. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'imprécisions au milieu. Hein. Bellingham, c'est vrai qu'il semblait, à mon avis, convalescent, ça c'est une évidence. Vinicius, qui a été aussi plutôt bien tenu en première mi-temps, je l'ai vu en effet, pas en difficulté, non, mais il avait quand même une bonne opposition avec De Ligt, hein, qui a quand même, selon moi, fait une bonne première mi-temps, qui est même l'un des meilleurs joueurs du Bayern, individuellement parlant. Et Neuer aussi, qui est bien entendu décisif, ça il faut quand même le signaler, parce que le tir de Vinicius, il y a Neuer qui s'éteint, hein, qui dévie le ballon, c'est vrai. Mais dans un ensemble, je n'ai pas semblé voir le Real avoir une bonne maîtrise du jeu, à créer des accélérations nécessaires comme il sait le faire. J'ai estimé que le Real était un petit peu brouillon, un petit peu, je dirais, en dedans, un petit peu emprunté, pas forcément par l'enjeu, je ne dirais pas ça. Mais je n'estime pas que le Bayern avait l'autorité, avait la personnalité nécessaire de pouvoir vraiment faire mal à ce Real. Et ça s'est vu lors des premières minutes de cette rencontre. Il y avait une bonne combinaison dans les 30 mètres, dans les 30 premiers mètres du Real Madrid, menée par les joueurs du Bayern, notamment par Musiala, qui a fait une très belle déviation côté gauche pour Gnabry. Et Gnabry nous fait un centre-pied gauche d'une horreur. Oh là là, mais c'est laid! Parce qu'il était même en avance sur Carvajal. Il était en avance. Le fait que le Bayern puisse jouer assez rapidement, voire une, deux touches de balle, bah, automatiquement, la défense est censée être débordée. Ce qui a été le cas sur cette action. Avec un Gnabry, avec une meilleure efficacité, mais c'était le but. Et il nous fait un centre digne d'une équipe qui ne lutte pas pour descendre de division inférieure. Je suis désolé. Mais Hichem, regarde l'action, frère.
Non, je m'en souviens maintenant que tu en parles.
Mais il est complètement fou. Attends, on n'est pas à la 75e
minute. Niveau, c'est dur.
T'as pas fait plusieurs occasions de jeu, mais on a vu des situations, le Bayern en contre-attaque, mais c'est trop laid. Le roi Sané, ça veut dire quoi, ça? Donc, quand on voit le nombre de ballons perdus par le Bayern, quand elle peut être dangereuse, mais le Real a clairement l'espace nécessaire pour pouvoir faire mal. Ça n'a pas été le cas en première mi-temps avec automatiquement un joueur dont on va encore redire le nom, c'est Rodrigo. Rodrigo, selon moi, ce soir a manqué même de dynamisme balle au pied, hein, au-delà de ses occasions de but, Gilles.
Au-delà des occasions de but, on va dire un petit peu emprunté, mais après, derrière, je pense que c'est une. Bah, je ne dis pas une léthargie ou une situation de.
Non, qui fait que.
Ouais, non, c'est un mot qui est un peu fort, effectivement, pour la prestation, puisque, en fait, voilà, je pense qu'on a vu de la léthargie, par exemple, sur la demi-finale d'hier, PSG Dortmund, notamment côté parisien. Donc là, du coup, on ne peut pas mettre, on va dire, les mêmes mots sur des situations différentes. Mais disons que, par exemple, c'est vrai que, par exemple, tu regardes le match de Bellingham. En termes de combinaison, c'était un peu difficile. Pour Rodrigo, c'était un petit peu difficile. Pour Valverde, c'était un peu difficile. Je parle toujours sur la première période. Hein. J'allais dire même pour Rudiger, que moi, j'avais déjà capté dès le début que même sur certains déplacements, ça se place. Bon, voilà quoi. On veut faire le mec dur sur l'homme sur Harry Kane, alors que Harry Kane, j'allais dire que c'est un joueur qui, footballistiquement, propose beaucoup plus de choses que peut-être... Des Erling Haaland ou des neufs, on va dire, qui sont des statues.
Bien sûr.
Donc, il y a une façon de jouer où Kane sait décrocher. Et donc, du coup, on voit tous ces joueurs-là qui ont été excellents tout au long de la saison, mais qui n'y sont pas. Et c'est vrai que si on commence à s'acharner sur Rodrigo, c'est, on va dire, un petit peu d'acharnement. Mais dans cet ensemble-là, on se dit... Le Real est en train de voir peut-être la situation lui échapper progressivement.
Bien sûr.
Et là, j'allais dire que quand on arrive en deuxième période, on a vu Alphonso Davies rentrer à la place de Serge Gnabry en première période.
Blessé.
Qui s'est blessé, effectivement. Mais je le dis très clairement, Alphonso Davies qui joue... un poste de d'ailier.
C'est ça.
D'ailier gauche. Je dis pas que c'est le hasard, mais non. Non, parce que c'est pas bien.
Il a tenté sa chance.
Clairement, il a tenté sa chance,
mais il a tenté ses coups. Ça se voyait qu'il était un peu perdu sur le terrain. C'était pas forcément un poste sur lequel il était habitué à jouer.
Ouais, ben voilà. Donc en termes de repères.
Ouais, ça se voyait. Après, ben écoute. Il rentre dans la surface, il ouvre bien son pied, ça fait but.
Mais justement, quand on remonte l'action, justement, on va dire au niveau de, on va dire, allez, 40 mètres plus tôt, le comportement, regardez bien le but, le comportement de Rudiger, justement, par rapport à Carvajal aussi. Et
tu l'estimes un petit peu passif.
Oh, c'est pas possible, j'allais dire, je fustigeais déjà que... Rudiger sur certains appuis était un petit peu perdu, sur certains duels jouait un petit peu de façon aléatoire, et là sur le duel direct il est beaucoup trop loin du début jusqu'à la fin.
Je pense que même qu'il sous-estime à mon avis la prise de risque de la part de d'Alphonso Davies, qui au niveau de sa rentrée, il a certes moins de repères qu'il a au niveau de son poste de latéral gauche, mais ça reste quand même un joueur vivace. Ça reste quand même un joueur qui dispose d'une vitesse d'exécution.
Ouais, mais Damas.
Pas d'exécution de ballon.
Hein. Oui, bien sûr. Athlétique, oui, bien sûr, oui, parce que c'est plus l'athlétisme, moi, que je regarde chez lui. Parce que je suis désolé, si Mazraoui, droitier, joue à son poste, lui, gaucher. Il y a quelques questions à se poser quand même sur
le bonhomme,
sur le bonhomme et sur sa saison.
Mais complètement.
C'est vraiment du dépannage, quoi.
Mais du dépannage. Et c'est même surprenant de voir le Bayern, dès la 33e minute à la blessure de Gnabry, faire un changement pareil quand même. Le Bayern n'a pas sur le banc, on sait que Coman est blessé, mais n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire un changement, je dirais, plus approprié par rapport au système de jeu auquel on attend de la part de l'adversaire du Real de ce soir. Mais non, c'est Alphonso Davies qui rentre, ce qui prouve quelque part, selon moi, les limitations du Bayern également. Parce que le Roi Sané fait une soirée minable, où il a... Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Enfin bref, concentrons-nous sur les joueurs du Real Madrid. Pour terminer avec ce développement de cette première mi-temps, si vous le permettez, messieurs, c'est vrai qu'on a parlé d'un Bellingham qui était, lui aussi, je dirais, un petit peu lourd sur les déplacements, qui a manqué un petit peu de fluidité.
Et justement, Damas.
Vas-y, Hichem.
Justement, parce que j'ai reçu par message privé sur WhatsApp critique de mes compères concernant Jude Bellingham. Moi, il faut bien comprendre une chose sur ce qui est demandé à Jude Bellingham, et contrairement à ce qui a été demandé peut-être en début de saison, en première partie de saison, c'est que son rôle à Jude Bellingham dans des rencontres à enjeu a évolué. On ne demande pas à Jude Bellingham de jouer de la même façon en Liga contre des équipes modestes de Liga, et quand tu joues des grosses équipes comme Manchester City ou encore le Bayern Munich, Bayern qui reste malgré tout, même s'ils sont faibles, un gros nom du football. Et en fait, dans le rôle dans lequel on demande à Jude Bellingham de performer, c'est celui déjà du repli défensif qui est beaucoup plus important que ce qui a été demandé par exemple en première partie de saison, parce qu'en première partie clairement, Jude Bellingham, c'est la deuxième lame. Tu as Vinicius Rodrigo, ou des fois Joselu quand l'un des deux était blessé, qui était en attaque et qui pouvait soit ouvrir des espaces, soit permettre en tout cas à Jude Bellingham de s'intégrer juste un peu en retrait pour avoir un peu plus de liberté pour créer du jeu ou carrément pour finir les actions. Là, tu ne l'as plus. Là, ce que Carlo Ancelotti demande à Jude, c'est « Écoute Coco, tu vas sur le côté, tu défends bien, tu fermes bien le couloir » et tu te concentres un peu moins sur l'aspect création, l'aspect ouverture du football pour créer, tu vois, des choses et faire briller des joueurs ou essayer de finir. Et donc, je trouve que Jude Bellingham, dans ce nouveau rôle, il fait son taf. Il fait taf de l'ombre.
Mais pourquoi il fait son taf ? Parce que déjà, de base, c'est un milieu relayeur de base, hein, Jude Bellingham.
De base, en plus.
Faut pas l'oublier. Hein. Il a simplement élargi sa panoplie. Enfin, je dis simplement, c'est comme si c'était accessible à tous. Non, il a élargi sa panoplie de footballeur offensif, qui certes nous a impressionnés en début de saison, voire même jusqu'à la période hivernale où il a beaucoup scoré, bien entendu. Mais comme tu l'as bien dit, il y a eu ce réaménagement tactique.
Oui, il y a aussi la blessure aussi qu'il a subie contre... qu'il a pu subir justement donc au mois de février c'était contre Gérone, je crois, en plus. Depuis ce moment-là, il a été, on va dire, absent et moins incisif devant le but. Je sais pas, n'est pas Michel Platini qui veut sur toute une saison, on va pas commencer à dire les choses, mais Jude Bellingham a continuer à avoir son rôle, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir, plus d'impact, plus d'influence, pas d'impact, d'influence dans cette rencontre et dans les 30 derniers mètres.
Non, mais les trois semaines qui vont arriver vont être importantes pour lui en termes de récupération physique, au niveau des courses. Pourquoi ? Parce que dans le 4-4 de Los Angeles qu'a le Real Madrid, on sait que Jude Bellingham va perforer. Oui. Il ne va pas rester que dans cette position de 10. On peut clairement aussi le voir en tant que 9, comme plus ou moins on l'a vu dans les différents schémas offensifs du Real Madrid. Et ce redoublement de poste en question, Jude Bellingham en est clairement en première ligne.
Ouais, clairement.
Et parenthèse d'ailleurs, petite information, j'ai cru lire qu'il jouait sous infiltration ce soir.
C'est possible, puisque on sait qu'il était qu'il est pas forcément dans les meilleures dispositions pour pouvoir jouer ces derniers temps. Mais après, maintenant à voir, puisque maintenant après trois semaines, il y aura du temps de récupération pour qu'il puisse jouer contre ses anciens coéquipiers de Dortmund. Mais il faut qu'on revienne quand même sur la rencontre. Donc il y a ce but de Davis qui intervient et c'est en fait là où je me dis, oui, voilà, Carlo Ancelotti qui fait des changements en réaction en faisant rentrer Modric et Camavinga. Je me suis dit, mais Carlo, franchement, ces changements là ils auraient pu être faits en anticipation pour pouvoir, on va dire, mener au score plus tôt dans la rencontre, et ça n'a pas été fait. Il faut attendre d'être à 0-1 pour pouvoir faire les changements. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ces changements là de cette animation là parce qu'en fait on le voit directement qu'il sort, on va dire, les joueurs qui sont pas les moins performants, parce que Toni Kroos a joué avec ses armes comme d'habitude, notamment défensivement. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait un match terne, loin
il
de
a
là.
Fait son match. Il a fait son match.
Par contre, Aurélien Tchouaméni, donc il y avait des débats comme quoi est-ce qu'il devait jouer en défense centrale ou en défense centrale aux côtés de Rudiger. Déjà, quand on voit la performance de Nacho, on se dit que tant mieux que ce soit Nacho qui ait joué en défense centrale, d'une.
Tout à fait.
Et de deux, Tchouaméni à son poste au milieu de terrain, je suis désolé, il manque quelque chose.
C'est insuffisant. C'est insuffisant. Pourquoi ça l'est ? Parce que déjà, de base, Aurélien Tchouaméni est un 8. Et un 8 dans le football moderne d'aujourd'hui est un joueur hybride qui est dans la capacité de pouvoir perforer l'adversaire direct au milieu du terrain. Et ce soir, l'opposition que le Bayern nous a proposée, c'était Alexander Pavlovic, un jeune joueur là qui commence à émerger cette année.
Oui, 20 ans, tout ça là.
Enfin, voilà, et le petit Leimer, un Autrichien qu'on va retrouver juin prochain au niveau de l'équipe de France, qui a un bon abattage physique. Mais soyons clairs, Aurélien Tchouaméni doit faire la différence face à cette opposition. Et ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé de sa part à ce qu'il faisait la passe de trop, la passe latérale de trop, le déplacement qui n'allait pas vers l'avant. C'est décevant. C'est décevant. J'attendais de sa part aussi qu'il puisse prendre des initiatives, même en termes de tir, qu'il puisse mener certaines combinaisons dans des positions plus offensives.
On soupçonnait comme quoi il avait des consignes qui allaient dans ce sens-là, mais c'est un peu surprenant quand même, parce qu'un joueur de cet acabit peut prendre des décisions lui-même au-delà même du plan de jeu. Il a été peut-être trop exécutant.
Trop, je pense. Je pense qu'il s'est un petit peu trop rangé sur ce qu'on lui a attendu, parce que dans la composition, où est-ce qu'il était positionné ? En tant que 6 en pointe basse. Sur le 4-4-2 dessiné par le Real Madrid, par Carlo Ancelotti, bien entendu. Mais on sait que Valverde, va faire le nécessaire pour repiquer dans l'axe en situation défensive. Donc, si Aurélien Tchouaméni fait sa course vers l'avant, t'as Toni Kroos qui est quand même là. pas par gros, c'est toujours là. Je pense que le Real a le niveau nécessaire, a le niveau de repli défensif nécessaire pour que Aurélien Tchouaméni puisse prendre un petit peu plus de risques. Sans compter que c'est un joueur qui, techniquement, peut faire la différence. Dans les 25 derniers mètres, il peut le faire. Ce soir, ça n'a pas été le cas.
Et on dirait que c'est des consignes qui ont été données par Carlo Ancelotti. C'est-à-dire que quand on regarde le positionnement dans la surface du Bayern, quand le Real Madrid a la balle, notamment en première mi-temps, de Aurélien Tchouaméni, on voit que Kroos se met volontairement en retrait pour laisser Aurélien Tchouaméni un peu plus devant. Alors que, comme tu l'avais dit, Damien, justement, il était en point de basse. C'est-à-dire que dans les transitions défensives, c'est Tchouaméni qui devrait repiquer dans l'axe. Bon, il y a Valverde qui vient faire son boulot, mais c'est vrai que je rejoins totalement cette analyse. C'est-à-dire que on devrait avoir un Aurélien Tchouaméni qui provoque plus. Et là, il a été transparent. Et c'est pas à son habitude. Je pense qu'il a été surpris peut-être par le niveau, en tout cas, qu'on lui lui demandait d'atteindre en fait dans ce genre de rencontre. Est-ce qu'il a pas été impressionné par l'enjeu de la rencontre, qui expliquerait qu'en fait,
on peut parler de ça à l'aller et aussi au retour, hein.
Oui, parce qu'à l'aller également.
À l'aller également, on a les mêmes manques qu'il. En fait, on attendait avec impatience Kamavinga pour qu'il puisse y avoir peut-être du changement.
On met de l'ordre.
Exactement. Et même, il y a eu une action, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, où Kroos, en fait, crie sur Tchouaméni, on le voit, on voit Kroos lui faire des signes avec sa main pour prendre en fait l'espace, ce que Tchouaméni ne fait pas. Il le fait avec un temps de retard, mais trop tard, poteau. Il fallait le faire bien avant, tu as un temps de retard. Voilà, c'est compliqué pour Aurélien.
Mais c'est toutes ces notes-là qui amènent à ce qu'il ne soit plus prioritaire par rapport au poste de milieu de terrain qu'il cherche lui-même. Donc, et surtout sur des rencontres comme celle-ci. Certes, le Real s'en sort bien ce soir, même très bien. Mais nous sommes au Real Madrid. On ne va pas laisser passer ce genre de détails-là. Don Carlo. C'est ce qu'il doit noter, en effet, pour Aurélien Tchouaméni, que ce soit pour la finale à venir et même pour les saisons qui vont arriver. Parce que Aurélien Tchouaméni n'a pas encore cette légitimité au milieu de terrain. Il ne l'a pas. Ça, c'est un point qui est important. Et ce genre de rencontres, elles sont bienvenues pour pouvoir imposer justement son statut. Exactement. Ce n'est pas encore acquis.
Ah, c'est pas encore acquis. On aura l'occasion de peut-être revenir dessus donc dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc on revient sur le fil de la rencontre, messieurs. On a un Real qui est mené à 1-0, qui égalise, j'allais dire, sur coup de pied arrêté grâce à Nacho, mais le but est annulé justement par la VAR après donc un accrochage de Nacho avec Kimmich. Et à ce moment-là, on se pose la question quand même, est-ce que ce Real-là va le faire, est-ce que va inverser la tendance. Et plus les minutes avancent, plus on se dit rien ne n'indique que cela va arriver. Et pourtant, il y a encore ce double changement, Brahim qui rentre, Rodrigo qui sort, Rossellou qui rentre et également. Et c'est à ce moment-là que les choses sont en train de s'opérer. Et il y a aussi cette occasion d'Harry Kane dont Damas parlait tout à l'heure, j'allais dire à 2-0, parce que on a des différentes appréciations. C'est vrai que moi, quand je suis devant on est devant la télé, c'est le confort, effectivement. De se dire que Harry Kane, il est dans la surface de réparation, sur son pied gauche, on va dire aux environs du point de pénalty, il tire. Ah, là, je me dis qu'effectivement, donc s'il y a 2-0, l'affaire est entendue, c'est plié. Et il ne marque pas. Il ne marque pas, il ne cadre pas.
Il ne cadre pas.
Et là, le réflexe que j'ai, c'est de me dire, ils vont le payer. Et ça, c'est inévitable qu'ils allaient le payer, Damaz. Dans ces moments-là, quand tu regardes le scénario de la rencontre et du moment où le Real Madrid donc, égalise par le biais de Rossellou, il faut expliquer ça. C'est en fait que voilà, on parle d'irrationalité, on parle de oui, le Real Madrid, mais encore une fois, meurt jamais. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas des équipes qui tuent le Real Madrid.
Exactement. Non, 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 ne le fais pas. Et quand nous sommes en Ligue des Champions, il y a des critères, il y a des fondamentaux qui sont bien définis. L'efficacité dans la surface de réparation, c'est incontournable. C'est pour ça qu'il faut quand même saluer le Don Carlo par rapport au changement de Rodrigo pour Rossellou. Rossellou, de base, est un joueur de surface. On sait que c'est pas un joueur de haut niveau cependant. Mais ses critères correspondent à pouvoir répondre présent dans la surface de réparation. Et Harry Kane, en effet, qui fait une très bonne saison au niveau statistique, on le sait très bien, bah, par cette occasion-là, en effet, ça correspond à la saison du Bayern Munich, qui a démontré des largesses colossales, défensivement parlant, dans sa surface de réparation. Offensivement, il n'a rien à se reprocher en soi, Harry Kane, c'est vrai. Mais les matchs clés de la saison en Bundesliga, plusieurs fois, le Bayern est passé à côté. Et cette occasion-là ressemble à ce qu'on a vu la veille par rapport au Paris Saint-Germain, qui est clairement passé à côté de sa rencontre, en tout cas à l'échelle offensive, en étant non efficace en Ligue des Champions. Au contraire de Mathieu Mels, qui a mis cette tête. Où il y a eu quoi ? But !
But, exactement.
But, c'est le but. Alors, quand on ne cadre pas, ça veut dire que t'es pas dangereux.
Ouais.
Et quand t'es pas dangereux en Ligue des Champions, tu seras puni. Tu t'exposes à la fessée. Donc malheureusement pour Manuel Neuer qui est quand même un gardien quand même. C'est quand même un gardien auquel il faut qu'on souligne des choses. On l'a congratulé par rapport à sa différence, par rapport à son jeu en rupture en tant que gardien de but. C'est vrai, parce qu'il a des arrêts qui sont non conventionnels à ce qu'on attend. Mmh. Mais les fondamentaux auxquels justement on attend une certaine forme de simplicité, Neuer a plusieurs fois fait quelques boulettes. Et non. Ce soir, ça n'a pas y échappé.
Oui, clairement, parce que c'est vrai qu'il y a des occasions, donc, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième période, où Neuer a fait des arrêts devant Vinicius, devant Rodrigo, etc. Mais effectivement, il faut dire aussi une chose, c'est vrai que nous, on est des anciens Damas, quand on suit le football, on connaît l'école allemande des gardiens de but, ils ont cette tendance à être très forts sur la ligne, d'être très spectaculaires, mais... Il y a un truc sur lequel il y a un problème, c'est que moi je ne connais pas de gardien allemand qui sait capter un ballon. Voilà, je l'ai dit. Hein, on a congratulé des gardiens allemands dans les années 90 parce qu'ils savaient sortir au point. C'est ça. Pense à Andreas Köpke à l'époque qui sortait tout le temps au point. Elle est à rater. Le point, voilà, bon bref.
Même Kobel hier, là, un ballon aérien, il peut la prendre, il met la...
Bon, il est suisse, mais voilà, c'est la même chose.
Eh oui, c'est des germanophones.
Ah, les gars, moi.
Mais tu vois, et donc là, en fait, moi, je me dis, voilà, il y a des personnes qui ont pensé, justement, donc, sur l'action où Vinicius est sur le côté, tape le ballon, et en fait, Neuer, doit capter le ballon et en fait il relâche le ballon devant Rossellou qui l'aligne comme un attaquant qui se doit dans la surface de réparation.
Bien sûr.
Mais voilà, donc capter le ballon, c'est quand vous ne savez pas attraper les ballons, et voilà, donc vous devez punir. Et c'est ce que le Real a fait.
Mais la sanction que Rossellou a imposée à Neuer, il faut quand même la souligner. C'est-à-dire que c'est un joueur quand même, Rossellou, qui joue pas beaucoup de matchs titulaires sur toute la saison, il doit en jouer moins de 10, hein, qui rentre exceptionnellement dans certaines rencontres de Liga, joue très peu de minutes, et il joue encore moins en Ligue des Champions, même s'il a un certain nombre de buts en Ligue des Champions. Mmh. Mais le fait que Rossellou suive l'action, alors que c'est un joueur qui, théoriquement, n'a pas plus de rythme que ça, ça c'est très fort. C'est-à-dire que le gars est rentré vraiment avec l'âme du Real Madrid. Ce qu'on demande en fait à un remplaçant, de suivre les actions, d'essayer de les terminer quand l'occasion se présente. Et là, il a bien fait. Il aurait pu rester, excuse-moi, mais t'es un attaquant, t'as pas de rythme, etc. Tu peux rentrer sur le terrain, être un peu perdu, j'ai envie de dire, ne pas suivre ce genre d'action, regretter de ne pas les marquer. Mais là, c'est tout le contraire.
Ah,
Osimhen est rentré avec l'attitude qu'il devait avoir.
Aller au bout des choses. Ça, c'est extrêmement important. Il y a également un autre nom qu'il faut mentionner en termes de rentrée, c'est Brahim Diaz, qui fait aussi une très bonne rentrée côté droit, où je l'ai trouvé juste. Je l'ai trouvé dynamique sur ses intentions. Et ça, c'est des choses qui sont importantes parce que tu rentres dans la tête de ton adversaire. Et en parlant d'adversaire, il y en a un qui a beaucoup souffert ce soir. C'est également Joshua Kimmich, sur le côté droit, où Vinicius, en deuxième mi-temps, a voulu accélérer. Il a clairement voulu accélérer, monter de cran en termes de niveau sur ses courses, sur sa capacité à éliminer, sur sa capacité à porter le ballon. Vinicius, en deuxième mi-temps, il est irrésistible. C'est très difficile, côté gauche, madrilène, à pouvoir l'arrêter. C'est Kimi, ce soir, qui en a clairement souffert. Bien que, étonnamment, sur les changements, il y a Kimi Jay, là, qui rentre. Tu te dis que... mais qu'ils ne peuvent pas encaisser un but comme ça, notamment pour l'égalisation de Rossellou, dans la mesure où vous êtes en supériorité numérique dans la défense centrale. Comment ça se fait, en fait, que maintenant Rossellou passe devant? C'est vrai que c'est inattendu à ce que Neuer relâche le ballon, parce que c'est clairement une erreur technique de sa part.
Oliver Kahn, Ronaldo en 2002.
C'est son fils spirituel, hein, les choses se suivent. 22 ans.
Tel père, tel fils.
Puni, encore une fois. Et il faut terminer le travail au Rossellou ce soir. C'est sa soirée. Et le Real Madrid, avant cette égalisation, il faut qu'on signale le calme qu'il détient. Il maîtrise ce genre d'événement. Il y a une maîtrise mentale. Je dirais même qu'il y a un avantage concurrentiel évident par rapport à toute équipe européenne aujourd'hui. Mon Dortmund a beaucoup de travail en 3 semaines.
Ah ben justement, pourquoi il a beaucoup de travail en 3 semaines? C'est parce qu'on se disait que ce Real Madrid qui a égalisé allait aller en prolongation, vu le scénario de la rencontre. Même si, il faut le dire quand même, Hichem, les changements de Thomas Tuchel, on a vu des joueurs rentrer, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est soit il voulait conclure en 90 minutes, soit c'est mort. Et soit c'est mort pour au-delà de ça. Et quand tu vois, par exemple, les joueurs qui sont rentrés, tu te dis que non seulement il n'allait pas conclure en 90 minutes, qu'il n'allait pas aller en prolongation, mais le fait de perdre, j'ai l'impression que ce sont ces changements qui ont cassé le rythme quand même du Bayern et cette dynamique-là. Et quand on voit le but, justement, donc, de Rossellou, le but libérateur, le but qui fait la différence, le but qui fait rentrer Rossellou dans la légende du Real Madrid, une action complètement improbable, hein. Nacho en distributeur de jeu dans la surface de réparation qui décale sur le côté Rudiger qui centre en une touche
du gauche s'il vous plaît
et pied faible exactement sur l'action qui donne à Rossellou. Le but est donné donc on signale un hors jeu au départ. Mais on voit l'action, il n'y a pas de hors-jeu, il y a but.
J'avais vu direct qu'il n'y avait pas d'hors-jeu.
J'allais dire que moi, j'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu au départ. Mais après, quand j'ai vu le ralenti, j'ai vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et c'est là, en fait, moi, que je vous le confesse. Je vous le confesse, ça fait la dernière fois que j'ai crié pour du ballon et que j'étais en joie, on va dire, non dissimulée. C'était quand Cristiano a marqué son ciseau au Juventus Stadium en 2018. Donc ça fait 6 ans. 6 ans que joie non dissimulée qui ressort. Parce qu'en fait, c'est un peu dur quand même de célébrer, on va dire, un but parce que tu regardes un ralenti. Mais à ce moment-là, il y a ce sentiment-là que c'est fait et qu'ils ne reviendront plus jamais en fait dans cette
rencontre. C'est terminé.
On est à la 90e minute, en plus. Hein.
Mais oui.
Mais comme tu le signales, Gilles, les changements de Tuchel sont catastrophiques. C'est-à-dire que à 1-0, il a fait rentrer des joueurs comme Kim, qui a fait une rentrée plutôt mauvaise, qui a donné 2 buts au match aller, rappelons-le, qui provoque le penalty et qui avait laissé Vinicius. Laisser l'espace à Vinicius sur un appel contre appel. Tu fais rentrer Choupo-Moting aussi, si je me trompe pas.
Incroyable.
Donc c'est pas des changements, je suis désolé. Même si toi tu veux conserver le score dans une certaine mesure, il lui a manqué cette expérience de la Ligue des Champions pour maintenir une tension quand même contre ce Real Madrid. Et c'est là son erreur. C'est-à-dire qu'il a déstabilisé la dynamique de son équipe. Et quand le Real est revenu, eh bien, c'était trop tard. Parce qu'en fait, les joueurs que tu as fait rentrer, ce n'est pas des joueurs qui vont te faire gagner des matchs. Ce sont des joueurs qui viennent bloquer le résultat, essayer de bloquer le résultat. Mais au final, ils n'y sont même pas parvenus. Et derrière, le Real, une fois que tu l'enclenches, dans le chaos, ce Real Madrid s'est brillé. Et c'est ce qui s'est passé. Deuxième action, but de Rossellou. Voilà.
Rossellou, effectivement. Donc, Esprit Madridista est très fier, justement, d'avoir soutenu Rossellou dès le début de la saison. J'allais dire, il s'aime un peu plus que nous autres, pour, voilà, donc, par différents intérêts. Mais, mais voilà, c'est vrai que, voilà, que Rossellou, Mato, San Martin, Di Rossellou, qui marque justement donc, voilà, là, pour, dans cette rencontre, un doublé qui le place directement dans la légende du Real Madrid. Je vous avais dit quoi en début de saison? J'ai dit, mais Rossellou, c'est quelqu'un qui doit marquer 15 buts cette saison, c'est ce qu'on doit lui demander. Quand on fait le compte, vous regardez, Rossellou a marqué 15 buts cette saison avec ce doublé. Et ouais, quand on voit, c'est les 15 buts qu'on lui demande, et le fait que grâce à lui, le Real Madrid est en finale de la Ligue des Champions, mais j'allais dire que sa saison, quoi qu'on puisse en dire, quelle que soit justement la dynamique, quelle que soit, on va dire, peut-être les hauts et les bas aussi qu'il a connus dans cette saison, sa saison est réussie par rapport à ce qu'on lui avait donné comme feuille de route. Et même, j'ai l'impression que même qu'il a même dépassé ses objectifs.
Je pense aussi.
Vas-y,
j'aime ça, toi. Vas-y. C'est pour toi.
Ok. En fait, ce que j'allais dire, juste pour rajouter, ensuite je te laisse la parole, Damas, c'est-à-dire que, et quel but il a marqué, en fait, cette saison, l'importance de ses buts, que ce soit en Liga et là en Ligue des Champions, elle vaut. En fait, c'est 15 buts, comme tu disais. En message privé, Gilles, et je suis 100% d'accord, mais c'est 15 buts qui valent plus que certains joueurs qui marquent 40 buts par saison, tout ça. Là, ce soir, ce qu'il a fait, Rossellou, il a inscrit son 15e but, mais c'est le 15e but de l'histoire. C'est-à-dire que ses buts pèsent très lourd dans les rencontres du Real Madrid. Je vais laisser Damas enchaîner.
Non, mais en plus, pour ce qu'il faut rajouter pour Rossellou, c'est que pour un joueur qui sort du banc et qui met 5 buts en Ligue des Champions sur 10 matchs marqués... Vous rigolez ou quoi?
Mais évidemment.
Attendez, mais c'est 50% de buts marqués. Tu sors du banc en ayant une moyenne de minutes qui tourne entre 20 et 15 minutes de rencontre et tu mets 5 buts en 10 matchs, dont un doublé en demi-finale. Il y a beaucoup de neufs qui aimeraient avoir aujourd'hui ce genre de statistiques. On sait que Rossellou, ce n'est pas l'attaquant qui fera la différence, et notamment par rapport à son âge, il a 34 ans, il est en 1990, il a beaucoup bourlingué, il a beaucoup tourné, il est revenu dans son club formateur, et il répond à un besoin, parce que son profil, personne l'a aujourd'hui au Real Madrid.
Et oui.
Donc, automatiquement...
Justement, Damas, est-ce que c'est pas ça qui a tué le Bayern, de se dire qu'en fait, comme il n'y avait pas de présence de neuf dans la surface de réparation,
exact,
il était un petit peu à l'aise, et en 15 minutes... Eh ben, il y avait un joueur de ce registre-là, et en fait, cette équipe n'a pas su répondre au défi d'un avant-centre de surface.
Mais exactement, mais pourquoi c'est grave? Parce qu'il y a 3 défenseurs centraux au Bayern quand il met son doublé. Kim, qui a remplacé le Roi Salé, aussi vilain qu'il soit, d'ailleurs qui est là, et puis De Ligt.
Ouais, c'est ça.
Donc, tu as 3 défenseurs présent, robuste et surtout action pour éviter ce genre de but, le doublé en soi. Et personne n'est présent. Non, ce quart d'heure représente la saison du Bayern en elle-même. Aucune efficacité défensive. Et quand il faut finir offensivement, Kane est responsable.
En dépit justement donc de la quarantaine de buts qu'il a marqué cette saison,
en dépit bien sûr,
et que le Bayern justement va faire une saison blanche, donc c'est ça qui fait que qui est terrible justement pour une formation comme le Bayern qui n'a pas fait de saison blanche. Je crois que ça doit faire depuis plus de
et c'était la saison 2009-2010.
C'est 11-12.
11-12 avec Dortmund là qui fait le son.
Ah oui, qui fait le doublé, oui, effectivement. Où ils perdent tout justement donc à un match près,
Ouais, c'est
deux.
ça.
Donc là, donc ça fait 12 ans. Et voilà, non, le Real Madrid est en finale de la Ligue des Champions. Il y
Tout à fait.
a, ben, après, voilà, donc est-ce que oui ou non, on parlait de la polémique qu'il y a eu justement donc, autour donc, de la fin de match, où il y a eu ce hors-jeu qui a été sifflé par l'arbitre assez tôt, et où les joueurs se sont arrêtés de jouer, mais il y a eu un but derrière, et c'est pour ça que les Allemands, on ne sont pas contents sur la fin de rencontre.
Oh, qu'ils arrêtent ça, ils ont été feignants techniquement pendant toute la rencontre là, qu'ils arrêtent ça. Oh. Tout le monde s'est arrêté de jouer, on a vu qu'ils sont arrêtés. C'est pas sur ça en fait que le Bayern a perdu ce soir. C'est ça
Oui.
qu'il faut surtout signaler. Moi, je réitère l'idée que le Bayern, avec une meilleure utilisation du ballon, ne perdait pas ce soir et allait au moins en prolongation. Vraiment, on ne peut pas se permettre d'être aussi, de présenter autant de faiblesses mentales, autant de faiblesses techniques, alors que tu t'appelles le Bayern Munich. Ce soir, le Real Madrid a sorti, selon moi, un petit Bayern. Ah oui, je suis désolé. Donc, ça veut dire quoi? Vu le scénario, le Real n'a pas fait un si bon match que ça. Non.
Oui, mais il s'est imposé.
Mais c'est le plus important.
Ah, justement, on ne va pas bouder notre plaisir. Comme on ne va pas bouder notre plaisir aussi d'accueillir sur ce podcast un revenant qui arrive un petit peu en retard. Je ne sais pas s'il s'est perdu dans les rues de Madrid ou qu'il commence à réserver son billet pour Wembley. C'est Abdou. Salut Abdou.
Messieurs, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien.
Mais on t'entend super bien,
Non,
Abdou.
je me suis pas perdu dans les rues de Madrid, ni de Londres, même si on va y aller. C'est un peu moins sexy. Je me suis perdu dans les rues de Sarcelles. Bon,
Aïe, aïe, aïe,
c'est
aïe, aïe, aïe.
ouais. La vie est dure, mais le Real Madrid, c'est
Sarcelle.
le pansement, tu vois. Donc
C'est pas la
voilà,
même
on
chose.
profite.
C'est pas la même chose.
Ah,
Pas
ben.
la même standing du tout.
Ah, ben. Clairement, les chichas de Sarcelles, Abdou, franchement,
Ah,
il faut quitter.
ça commence déjà. Même pas un bonsoir, ça m'attaque déjà. C'est comme ça, Gilles.
Ah, mais j'allais dire que nous, on est lancés quand même. Nous, on est lancés. Et quand même, c'est une demi-finale de Champions League. Il faut être prêt. Il faut être prêt, Abdou. Il
Et
faut
je
être
le
prêt.
suis, je le suis.
Ah,
Envoyez la sauce, messieurs.
justement, mais là, parce que là, on t'attend comme si t'étais Rossellou, quoi.
Oui,
Ouais.
oui, en effet.
Ah, ben.
Déjà, Rossellou, ça, en fait, je crois que c'est devenu mon héros. Ouais, je pense que
Ah.
si j'avais regardé ce match-là avec ouais, une bonne dizaine d'années en moins, il serait devenu mon joueur préféré juste pour ce moment-là. Je vous mens pas. C'est le genre de moment où, qui te fait aimer un club, qui te fait aimer un joueur, qui te crée une attache tellement forte par rapport à une équipe, simplement que, franchement, chapeau, monsieur Rossellou. Gros shout-out à Hichem qui l'a soutenu depuis le jour 1. Ça aussi,
Ah, merci Abdou.
il mérite ses royalties. Franchement, ce soir, c'est son soir pour moi.
Oh oui,
Et
clairement.
ouais,
En
non.
fait, en vrai, c'est le soir de Esprit Madridista parce que nous, on n'a jamais lâché Joselu, les gars.
C'est vrai.
Clairement. Oui, c'est vrai, ça,
Ah
c'est.
oui, tous les intervenants, oui, on l'a critiqué à certains moments quand il fallait, mais on a toujours dit que ce joueur-là avait une importance capitale.
Oui, non, mais justement
Tout à fait.
il fallait pas avoir d'attente démesurée, de se dire que voilà, ce mec-là va
Non.
marquer les 30 buts de Benzema. C'est
Non,
faux.
non, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Il a mis 11 buts en sortant du banc. Liga, hein, ça reste des stats tout à fait honorables pour un temps de jeu qui est beaucoup plus faible, en effet. On a bien précisé également son profil atypique par rapport à l'effectif du Real Madrid. Tout est réuni, en effet, pour que, encore une fois, le Real Madrid aille chercher sa 16e.
15e, 15e,
Ah,
15e,
oula! Et,
15e,
pardon. Non,
doucement
mais
d'Amel.
il a raison parce qu'en fait, il
Ce sera
pense
en
déjà à l'année
2025.
prochaine et
Ouais,
au
bien sûr.
back-to-back. Moi, je suis d'accord avec lui.
Non, mais justement, oui, donc cette 15e Ligue des Champions, ben voilà, donc se jouera à un match près en finale à Wembley contre le BVB Dortmund de notre cher Damas. Hein.
Eh
Je
oui.
pense que voilà, donc les auditeurs découvrent que notre consultant européen, ben voilà, donc a son équipe, voilà, son équipe de cœur ici.
Exact. Quel plaisir. Quel plaisir. Oh là
Mais
là.
justement, félicitations également. Hein, donc, il faut en parler. Et on aura l'occasion, donc, dans les 3 prochaines semaines, de pouvoir, on va dire, peut-être te réinviter pour parler de cette équipe-là et surtout de pouvoir se projeter sur cette grande finale de Londres. Mais
tout à fait.
mais voilà, mais j'ai l'impression, mais c'est encore un petit clin d'œil de l'histoire. Bah, après, le Real et le Dortmund ne se sont jamais croisés en finale de Ligue des Champions.
Non, 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 c'est que des demi-finales.
Que
en
des
effet,
demi-finales, ouais, 97 et 2013.
C'est pas 18,
non, il y a eu un
98, 98, 98 et 2013. Pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi.
Non, non,
il y a un
non,
quart
non.
en 2014 aussi.
Et le quart en 2014, effectivement, avec. Oui, où il y a eu 3-0 à l'aller et 2-0 au retour pour justement, donc en termes de revanche, le Real était passé, effectivement.
Oui, 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 ah, je m'en souviens, oui, en 14, oui, en effet.
Mais deux demi-finales, effectivement, 98 et 2013.
Et 98, je m'en souviens bien, j'avais beaucoup souffert de cette élimination. J'étais très triste pour Mathias Zamer parce que je sentais qu'il arrivait vraiment vers la fin.
Ah, il n'était pas là, mais il n'a pas joué, je crois.
Ah, il était même blessé en plus.
Ah, ouais, il était blessé, il allait manquer la Coupe du Monde.
Ouais, mais complètement. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait fait avec Lothar Matthäus à côté? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais soyons clairs, là, on va affronter deux oppositions de style, hein, et surtout un retour aux affaires du côté du Borussia Dortmund après cette confrontation face aux voyous du Paris Saint-Germain. Ça fait du bien, hein, parce que déjà, de un, battre le PSG qui nous a clairement sous-estimé à un niveau, je dirais, sans précédent avant la confrontation de cette demi-finale. Ben, automatiquement nous a mis dans une position en se disant ben attendez, vous nous avez sous-estimé, vous allez voir ce que vous allez voir, et ils ont même pas réussi à marquer sur deux matchs face à un Dortmund qui a présenté des largesses défensives évidentes, hein, au cours de toute la saison. Et là on affronte le Real Madrid, l'ogre en effet, ben, de cette compétition. Moi pour ma part, je suis, même pendant la journée les gars, je suis en train de sourire. Ça me fait plaisir. Le fait de se dire on est en finale, toutes les décennies Dortmund est sur une finale européenne. non mais attendez, on suit le sport de très haut niveau. Gagner est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc quand on a affaire à des gens qui nous écoutent sur Esprit Madridista, supporters du Real Madrid ou pas, il faut qu'ils se rendent compte que gagner c'est quelque chose de dur. Ouais. C'est pour ça que les gens qui gagnent généralement et qui savent c'est quoi la victoire font preuve d'humilité. Parce qu'ils savent en fait. Attendez, on se rend pas compte du nombre de joueurs qui sont sur la ligne de départ quand la Ligue des Champions commence au mois d'août. Voire même au mois de juillet.
Au mois de juillet pour les pays Saint-Marin, tout ça là.
L'Irlande, tous ces trucs là. ça démarre de loin. Hein. Donc quand on arrive à la fin et qu'on la remporte, on comprend le soulagement de beaucoup. Donc pour moi, qui supporter du Borussia, et qui a en effet eu différentes circonstances au cours des différentes années, hein, vous imaginez bien, arriver en finale, c'est plus qu'une satisfaction. Donc, automatiquement, il faut faire bonne figure face à l'ogre madrilène.
Ah, ben, justement, donc, bonne figure. Bon, on aura l'occasion de, comme je le disais tout à l'heure, donc, de pouvoir analyser tout ça. Il y a 3 semaines avant, entre les deux rencontres. Donc, il y a beaucoup de temps avant d'arriver à cette affiche, à cette finale. Mais voilà, Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Hichem, est-ce que au mois d'août, au mois de septembre, qu'on a commencé le début de saison pour être dans l'esprit madridista, est-ce qu'on aurait imaginé un seul instant que ce serait la finale de la Ligue des Champions, donc 8 mois plus tard?
Au tout début, non. Et encore moins Dortmund, qui est une équipe qui montre de très belles choses là sur les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Mais pour le Real, est-ce qu'on pouvait s'attendre que le Real Madrid puisse arriver en finale? Non. On pensait que cette équipe était en reconstruction et qu'il manquait encore des éléments cruciaux, notamment en attaque, pour compléter un certain profil de jeu qui nous manquait. On le sentait dans ces premiers matchs de Liga que, ben, on avait des victoires, mais il y avait quelque chose qui manquait, un profil qui manquait. On avait Rossellou, mais Rossellou est un joueur... un modeste joueur, j'ai envie de dire. Il nous fallait autre chose. Et au cours de la saison, on se rend compte petit à petit qu'en fait, ce Real Madrid est une équipe bien plus rodée qu'on ne le pense, bien plus complète qu'on ne le pense. Certaines lacunes qu'on pensait ont été compensées par le profil de certains joueurs. La saison exceptionnelle de Jude Bellingham au milieu de terrain qui a permis de, par exemple, combler le manque de créativité qu'on avait pu laisser avec un profil de jeu comme celui de Benzema. La saison de Vinicius, qui a pu regagner encore, ou en tout cas monter en compétence en termes de finition. Donc, tous ces éléments-là, que ce soit en défense, en plus on regarde la défense, on a eu des blessures comme Militao et Courtois. Derrière, on finit meilleure défense de Liga. C'est exceptionnel. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à jouer à un tel niveau en Ligue des Champions, surtout face à des équipes qui, semblerait-il sur le papier, étaient bien meilleures, en tout cas plus complètes, comme Manchester City. Mais on les a sortis. Donc voilà, il y a tellement de facteurs qui pouvaient ne pas présager que le Real Madrid irait en finale. Donc c'est une excellente surprise quelque part, si on regarde, si on compare par rapport au début de saison et nos attentes. Donc c'est une finale qui est assez inédite pour le coup.
Une finale inédite, un Real Madrid qui n'a pas encore dans son histoire joué, en tout cas de finale du côté de Wembley. Et ça, c'est quelque chose qui est une anomalie pour, on va dire, un aussi grand club de jouer dans un stade aussi mythique du football, hein, du football mondial. Mais voilà, donc on va réparer cette anomalie, et voilà, on va prendre le temps de profiter justement donc d'une nouvelle ville européenne à mettre dans notre escarcelle. Messieurs, c'est que du bonheur, j'ai l'impression.
Mais c'est que du bonheur, mais c'est encore une fois, je dirais, une circonstance nouvelle pour le Real Madrid d'affirmer les caractéristiques que toute équipe doit avoir quand on arrive au mois de juin, c'est-à-dire comment jouer une finale. Moi, je pense que Dortmund, en 3 semaines, va devoir faire une transformation s'il veut d'abord être au niveau. Ça, c'est important à signaler. Parce que j'insiste bien sur ce podcast-là. Le Paris Saint-Germain a été inadmissible dans son attitude. On a bien entendu tiré profit de ça. Ça ne sera pas le cas en finale, je pense. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, pour mon Dortmund à moi, est-ce qu'il est capable de se mettre au niveau, déjà de 1, en termes de dispensation mentale d'une finale, sur le fait qu'on n'est pas là pour être dans une situation à celui qui fait le moins d'erreurs possible. Ça sera celui qui va répondre aux bonnes réponses. Ça veut dire quoi? Sur 100 questions, sur combien avez-vous de bonnes réponses? Le Real Madrid a plusieurs fois eu un taux de réussite assez élevé. Est-ce que Dortmund pourra également aller à ce niveau-là? En 3 semaines, c'est-à-dire rigueur défensive, positionnement en termes de collectif, bloquer Vinicius, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup pour mes gars. Et le retour de Jude Bellingham. Ça fait beaucoup de paramètres pour mon Dortmund face à un Real qui connaît son sujet.
Mais, Damas, attention à ne pas sous-estimer cette équipe de Dortmund qui sait mettre en place un jeu assez tenace, et notamment défensivement. Ils l'ont montré hier contre Paris. Alors, on parle de Paris qui n'était pas au niveau, oui, dans une moindre mesure.
C'est Dortmund des voyous.
Oui, mais... on parle de, ouais, de, on peut les qualifier de tous les termes, mais Dortmund est quand même une équipe. Moi, j'ai trouvé dans Dortmund certains joueurs qui m'ont ébloui. Alors, beaucoup parlent de Jadon Sancho, mais moi, j'ai beaucoup aimé le latéral gauche. Donc, je sais plus, c'est
Madsen.
Madsen, oui, qui était complètement, on va dire, perdu en Angleterre et qui revit dans cette phase là avec Dortmund en Ligue des Champions.
Bah oui, tu regardes le milieu de terrain aussi, il y a des choses très intéressantes à Dortmund. Tu regardes la charnière centrale, Mats Hummels est accompagné de...
Schottenberg,
là, c'est franchement le match qui sort, Schottenberg aussi, c'est très très bon. Donc oui, il y a des interrogations que tu as soulevées et qui sont légitimes vis-à-vis de Dortmund, qui n'a pas l'habitude de jouer des finales européennes, ça c'est une évidence, mais elle a une carte à jouer, c'est-à-dire que elle n'a rien à perdre, cette équipe de Dortmund, face à un Real Madrid. Bon, le Real Madrid n'a rien à perdre non plus, j'ai envie de dire, parce que 14 Ligue des Champions, l'armoire à trophées, elle est déjà bien remplie, donc une de plus sous demain, tu peux te mettre dans cette disposition mentale, mais on connaît le Real Madrid et on sait qu'ils n'iront pas avec cette motivation-là, mais plutôt la motivation de « on va chercher la 15e », contrairement à Dortmund, qui peut se dire « ah, on est quand même en finale, on va jouer notre jeu ». Voyons comment ça va se passer.
Exactement, pour pouvoir aller peut-être accrocher une deuxième Ligue des Champions après celle obtenue en 97, face aussi à l'époque, on va dire, à un grand favori qui était le grand de l'époque.
Tout à fait.
Qui était la Juventus et qui, justement, donc, sur le tour d'avant, avait sorti, on va dire, l'une des plus belles équipes aussi des années 90, qui était l'Ajax. Donc,
l'Ajax.
Voilà.
Magnifique match.
Donc, c'est-à-dire que là, même en termes de piège, là, nos amis, justement, donc là, du Real Madrid, peut se positionner en tant que favori, chose qu'il était déjà en demi-finale. Et là, sur un match, bon. Le Real Madrid n'a pas l'habitude de perdre beaucoup ses finales au cours de ces 25 dernières années. Mais attention quand même, justement, puisque on a une équipe qui a su déjouer les pronostics. Hein, donc,
complètement.
Donc voilà, donc là, ce sera de tout ça dont ce sera l'objet. Donc, au cours des prochaines semaines. Je pense que le prochain épisode, ce sera donc un épisode où on va revenir quand même sur la saison en Liga jusqu'ici, hein, donc pour pouvoir, on va dire, célébrer le titre. Maintenant, on a des choses à célébrer puisque, voilà, on a des choses voilà, qu'on pourra justement valoriser donc, pour cette Liga et aller doucement vers cette grande finale. Le Real Madrid est en finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Et ben, je sais que ça fait. Il y a beaucoup de jalousie, ça fait aussi beaucoup de gens sur les dents.
Et il faut penser à ces supporters parisiens aigris, là, qui, dès l'écart, après avoir éliminé un piètre Barça peureux, étaient là, oui, nous, on veut affronter le Real, on veut finir le Real. Ils sont dans une autre planète, ces gens.
Ah non, mais clairement, bon, après, bon, que s'il y a des vestiges à prendre de cette campagne, ben, ce sera, on va dire, pour le Real Madrid, un transfert qui aura donc à prendre du côté du Paris Saint-Germain. Et maintenant, reste à savoir si justement ce transfert va se faire justement donc à 2 ans après donc un non-transfert qui a eu lieu, donc deux Ligues des Champions en 3 ans pour le Real contre zéro.
Mais pourquoi viendrait-il alors?
Ah, ça c'est une question auquel justement donc on aura aussi l'occasion de pouvoir y répondre quand l'idée de la signature sera faite, en espérant bien évidemment que le Real soit champion d'Europe de notre côté. Après, Damas, tu nous excuseras là.
Non mais ça se
pendant 3 semaines, on va devenir de sacrés adversaires. Voilà, messieurs, je pense que là, on a fait un petit peu plus d'une heure encore. Oui. Donc là, il est bientôt 1h du matin, hein, au moment de conclure. Mais vraiment très heureux, justement, de pouvoir vous proposer donc cet épisode qui va être disponible assez rapidement. Passez une bonne journée. Et voilà, vous êtes madrilène, souriez. Vous êtes en finale de Ligue des Champions. Vous êtes champion d'Espagne. Et évidemment, le meilleur reste à venir, hein, messieurs. Donc, merci à tous et comme d'habitude, à la Madrid.
À la Madrid. Ah.